Attention, attention.
Les professionnels débattent sur vous. Campus FM, sens de couleur.
Mon soleil éclaire le jour.
Campus FM passe à la vitesse supérieure.
La radio s'installe chez toi.
Music.
Tu veux pas où? Tu vas danser.
Voici la minute du droit. La minute du droit, c'est un programme d'éducation aux droits humains. La minute du droit, c'est un programme d'information et de sensibilisation aux droits et obligations des justiciables lors des différentes phases de la procédure pénale au Cameroun. C'est un programme radiophonique interactif réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise de Affaires Globales Canada et l'appui technique de l'ONG internationale suisse International Bridges to Justice. La Minute du Droit, c'est un programme animé par Yvon Mabofé, consultant international en droit de l'homme, avec la participation des professionnels du droit à l'instar de Kabra Libi, journaliste, juriste internationaliste et expert en droit de l'homme. Sa Majesté Joseph Raoul Macondo, juriste et expert en droit de l'homme. Le programme bénéficie également de la participation des magistrats, avocats, enseignants d'université et autres acteurs de la société civile. La Minute du Droit, c'est tous les mardis et jeudis de 9h à 9h30 sur Radio Campus UY2. La Minute du Droit, c'est le droit à votre portée, un programme au service du droit et du développement.
Mesdames et messieurs, bonjour, chers auditeurs de Radio Campus et auditrices bien évidemment. Une fois encore, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle édition d'information et de sensibilisation sur vos droits fondamentaux intitulée « La Minute du Droit ». La Minute du Droit, nous ne cesserons de le rappeler, et c'est une plateforme de sensibilisation sur l'ensemble de vos droits fondamentaux garantis par les textes nationaux et internationaux auxquels l'État du Cameroun est parti, mais c'est avant tout un cadre de dénonciation des abus et violations des droits de l'homme commis et en même temps un outil de plaidoyer pour le respect des textes en vigueur. C'est donc un programme qui bénéficie du soutien technique de la réalisation de Radio Campus, mais également de l'expertise des personnes ressources engagées à l'édification des masses. Ce matin, comme à l'accoutumée, nous aurons nos deux experts maison, à savoir Kabra Libi et Sa Majesté Joseph Raoul Macondo. Mais avant, mesdames et messieurs, d'introduire nos personnes ressources, nous allons souffler le temps d'une rapide pause musicale et revenir juste après. Thank you. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio Campus, nous retournons, nous sommes déjà en studio une fois de plus. J'aimerais encore vous dire bonjour et pour nos mamans, nos sœurs et nos épouses, j'espère que la fête a été belle. Alors, en studio, nous avons nos deux experts maison, comme je l'avais annoncé ou indiqué préalablement. Il s'agit de Cabral Libi. Cabral Libi, bonjour.
Bonjour Yvan, bonjour aux auditeurs, que je retrouve avec grand plaisir.
À ma gauche, Sa Majesté, bonjour.
Bonjour Yvan, bonjour Cabral, bonjour aux nombreux auditeurs de Radio Campus.
Alors, Sa Majesté, la fête des femmes, vous étiez avec votre épouse ou alors vous étiez consacré à autre chose?
Nous accompagnons toujours les femmes à la fête. Pour avoir la paix. Vous savez, la femme, c'est ce qu'on appelle un mal nécessaire. On n'a pas le choix. Et quand elle fête, on doit fêter avec elle.
Cabral.
Oui.
Avec les femmes toujours. J'ai vu sur Facebook que vous avez fait une publication sur la journée. Je ne sais pas, peut-être j'ai mal vu, mais je sais que en ce qui concerne toujours des activités comme celle-là, internationalement consacrées, vous ne manquez pas de donner une information nécessaire.
Oui, j'ai fait une tribune consacrée à la journée internationale de la femme, que d'aucuns ont jugé ironique. Mais bon, en fait, c'était ma contribution à moi. Je rappelais quand même qu'au Cameroun, la journée internationale des droits des femmes est devenue une fête et que cette fête, lors de cette fête, les femmes se comportent comme des esclaves affranchis qui croquent la vie à belles dents et l'arrosent avec beaucoup d'alcool, ce qui provoque parfois des dévoiements sur lesquels je ne voudrais pas revenir. De toute façon, les anatomies dévoilées et puis quelques conséquences regrettables. Mais bon, c'est pour cela que malheureusement, la Journée internationale de la femme, qui est heureusement différemment célébrée ailleurs, devient au Cameroun une sorte de festivité banale, de journée internationale plutôt banale, d'ailleurs avec quelques incompréhensions d'ordre protocolaire, du genre les corps constitués de la République défilent devant la Première Dame. On a même connu l'an dernier toute une ministre de la République qui allait présider le défilé au nom de la Première Dame, qui, me semble encore, n'a pas dans ce pays un statut particulier ou un rang protocolaire particulier. Mais bon, tout cela, c'est la fête des femmes. Je ne peux que leur souhaiter. Je me suis rappelé au souvenir de ces fragments de la chanson de Petit Pays, un artiste bien connu, qui disait dans l'une de ses chansons à l'époque où il était l'avocat défenseur des femmes, puisqu'entre-temps, il est devenu le neveu de Jésus, tout ce qu'on veut. Et il disait, toi qui dis que la femme c'est quoi, c'est toi-même qui es quoi. Donc voilà, je ne saurais dire que la femme n'est rien.
Merci Cabral. Je rappelle à nos nombreux auditeurs que vous avez la possibilité d'interagir avec nos experts ici en studio pour les 30 minutes que nous aurons à passer avec vous au 653 81 19 18, 653 81 19 18. Ou alors au 242 00 65 38, 242 00 65 38, ou vous pouvez directement nous écrire également un SMS au 655 44 60 92, 655 44 60 92. Alors, Sa Majesté, la semaine dernière déjà, vous avez eu, pas la semaine dernière, mais le mardi dernier, vous avez eu un petit empêchement. Et vous nous l'avez signalé avec l'expert, avec Cabral Libi, nous avons amorcé l'interrogatoire ou l'audition. Et Cabral Libi nous a bien évidemment indiqué que l'interrogatoire ou bien l'audition était juridiquement encadré au Cameroun et que aujourd'hui il est question pour nous de pouvoir voir les droits que le législateur reconnaît à la personne auditionnée. Mais avant de pouvoir avoir vos orientations et vos conseils sur cet ensemble des droits, il y a peut-être une question qu'on n'a pas, on n'a pas donné suite à cette question le mardi dernier. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis arrêté si je n'ai pas d'avocat et que je peux refuser. Est-ce que je peux refuser de répondre aux questions des auditeurs. Donc la personne dit qu'elle a arrêté, elle est certainement dans une cellule de la place. Elle dit, si elle n'a pas d'avocat, est-ce qu'elle peut refuser de répondre aux questions des enquêteurs? Je ne sais pas si c'est Libye qui doit continuer ou Sa Majesté.
La réponse est claire. Il n'a pas d'avocat, ça veut dire que son avocat va arriver. Ça veut dire, au moment où on veut l'entendre, son avocat n'est pas présent. Ou alors qu'il n'en a pas du tout. Parce que le problème, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a la possibilité de donner à chaque personne de se faire assister par un avocat quand elle est entendue. Ça veut dire que si vous dites que là maintenant mon avocat arrive, on va attendre l'arrivée de votre avocat. Mais si vous n'avez pas d'avocat, vous ne pouvez pas bloquer l'audition. Donc si la personne demande d'attendre parce que son avocat va arriver, on va attendre son avocat. Mais on ne peut pas bloquer l'audition parce que la personne n'a pas d'avocat du tout.
Cabral ?
Effectivement, l'avocat, ou plutôt l'assistance, se faire le conseil juridique, se faire assister par un avocat est un droit. Et c'est pour ça que nous l'avons rappelé ici. Chaque fois qu'un citoyen fait l'objet d'une arrestation, en enquête préliminaire d'ailleurs, comme en instruction, il y a obligation de lui dire qu'il a le droit de garder le silence et de se faire assister par un avocat. Et ce rappel, d'ailleurs, au regard du code pénal, doit être mentionné dans le procès verbal. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit su.
Tout à fait.
Parce que sinon, ce sera, le procès verbal sera attaqué plus loin et sera annulé. C'est-à-dire que c'est un préalable obligatoire qui s'impose à l'enquêteur ou à l'auditeur. Il faut rappeler au sujet, et c'est très important au sujet de droit, que la personne arrêtée, qu'il a le droit de se faire assister par un avocat. Alors, ce que Raoul dit, c'est qu'effectivement, si quelqu'un n'a pas d'avocat, peut-il être auditionné? La réponse, c'est oui. On peut se faire auditionner, notamment en enquête préliminaire, si on n'a pas d'avocat. Parce que quand on vous rappelle que vous avez le droit à un avocat, c'est que c'est un avocat que vous mobilisez, vous. Maintenant, si vous n'avez pas d'avocat et vous n'en avez pas appelé un, vous ne pouvez donc pas, ça veut dire que vous pouvez répondre par vous-même. Si vous n'appelez pas un avocat, ça veut dire que vous êtes capable de répondre par vous-même. Et mention de cela est fait dans le procès verbal, que vous n'avez pas voulu, vous ne vous faites pas assister par un avocat. Donc, si vous ne voulez, vous n'avez pas d'avocat, il faut qu'on sache pourquoi vous n'avez pas d'avocat. Vous avez le droit à un avocat, vous n'en faites pas venir un. Ça veut dire, par voie de conséquence, que vous êtes donc capable de répondre aux questions qui vous seront posées sans l'assistance d'un avocat. Il y a notamment une nuance qu'il faut quand même rappeler. C'est que le code de procédure pénale a institué ce qu'on appelle aussi l'assistance judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de personnes, l'article du code pénal m'échappe, mais il y a même une loi qui a été votée en la matière, une loi qui date, je crois, de 2009. Et portant assistance judiciaire. Et qui définit dans un certain nombre, d'abord les profils des personnes pouvant obtenir un avocat parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'un avocat, rappelons-le quand même, c'est un prestataire de service et c'est quelqu'un qui doit être rémunéré. C'est ce qu'on appelle les honoraires d'avocat. Même lorsque vous appelez un avocat, vous assister au commissariat, eh bien cet avocat doit être payé. C'est son travail, il vit de ça. Maintenant, il y a une catégorie de personnes qui peuvent se faire assister, notamment en instruction, et tout dépend, la loi définit également les conditions dans lesquelles tout ça peut être fait, en matière criminelle et autres. Il faut que vous soyez dans une personne, je crois, une personne indigente. Il y a les personnes indigentes. Lorsque votre indigent, c'est bien la loi de 2009.
Oui, la loi numéro 2009-004 du 14 avril 2009.
Voilà, une loi de, voilà, c'est le 14 avril qui m'échappait parce que je me rappelle généralement le 14 avril parce que c'est également le 14 avril 2008 que la Constitution a été révisée. Donc, généralement, donc la loi du 14 avril 2009 définit donc les profils des personnes pouvant bénéficier. Voilà, comme vous avez ouvert la loi.
À l'impôt libératoire.
Voilà, les personnes nécessiteuses, les personnes assujetties à l'impôt libératoire.
Le conjoint en charge d'enfants mineurs.
Le conjoint en charge d'enfants mineurs qui est en instance de divorce, je crois, sans revenu. Et je pense qu'il y a les personnes, les hommes en armes. Voilà, il y a les hommes en armes également. Ils peuvent se faire. Mais il y a encore une procédure à la vérité, parce que la loi de de 2009, bien qu'ayant défini les profils, établit également une procédure parce qu'il y a une commission.
Oui, il y a une commission.
Dans ce cas, vous saisissez cette commission. C'est-à-dire que si vous êtes donc en situation d'indigence, c'est pour ça que la personne qui a envoyé le SMS ne nous a pas donné toute l'information. Si vous êtes donc dans une condition de nécessité, vous êtes un indigent, vous saisissez donc, il y a une commission qui existe au ministère de la Justice qui a été instituée par la loi, dont nous évoquons les références. Vous saisissez donc cette commission. Cette commission doit donc tabler sur votre dossier et prendre des dispositions. Parce qu'à la vérité, ça veut dire que l'État va se substituer à vous dans la rémunération de l'avocat. Parce que si l'État vous affecte...
Et donc là, l'État vous commet un avocat d'office.
L'État vous commet un avocat et c'est l'État qui va payer cet avocat. Donc il y a une commission qui doit donc siéger pour que les modalités... D'abord, qu'on s'assure que vous êtes véritablement un nécessiteux. Et puis, je pense qu'il y a d'ailleurs un très bel article scientifique qui a été publié sur cette question par le professeur Gérard Martin, P.K. Sandam, sur les frais de justice, sur le coût de la justice, la gratuité de la justice. Il y a un article là-dessus qui a été publié il y a 2 ans, je crois.
Merci, Cabral. Sa Majesté, vous voulez ajouter quelque chose à cela?
Ce que je veux ajouter, c'est que cet assistant, est-ce qu'il peut bénéficier de cet assistant à partir de
l'enquête préliminaire?
L'enquête préliminaire, c'est ça le problème. Je pense...
Oui, c'est vrai que le code de procédure pénale ne précise pas à quel niveau. Et la loi, elle se contente de définir les personnes, les profils des personnes, et puis d'instituer une commission. Donc, par voie de conséquence...
Généralement, c'est à la phase d'instruction.
Généralement, c'est à la phase d'instruction que les avocats sont commis d'office. Pour ceux qui...
Revenons peut-être à cette phase d'instruction. Il y a un cas, on va revenir avec le cas de Jean-Claude Essomba, notre fameux cas d'école. Alors, Jean-Claude Essomba, nous l'avons dit la dernière fois, après son arrestation, est conduit à la police. Immédiatement à la police, on le conduit devant le juge d'instruction qui lui informe de ses droits. Jean-Claude Essomba, il est perplexe car il indique qu'il n'a pas été confronté à la même procédure devant l'officier de police judiciaire. Sa Majesté Joseph Raoul Makando, Jean-Claude Essomba aimerait savoir si le juge d'instruction a le droit de procéder ainsi. Si oui, y a-t-il un texte qui le mentionne au plan interne?
Je pense que le juge d'instruction doit procéder ainsi, puisqu'il est précisé à l'article 170, alinéa 1 du nouveau code de procédure pénale, que lors de la première comparution, le juge d'instruction informe l'inculpé qu'il se trouve devant un juge d'instruction et ne peut plus être entendu par la police ou la gendarmerie sur les mêmes faits. Mmh. Ensuite, sur une commission rogatoire, et que à l'issue de l'information des charges, à l'issue de l'information, les charges sont retenues contre lui. Mmh. Ça, c'est l'obligation qui est faite au juge d'instruction de préciser tout cela, de présenter tout cela à l'inculpé. Hein? Il lui précise aussi qu'il sera renvoyé, pour jugement devant la juridiction compétente. Mmh. Et l'alinéa 2 du même code de procédure pénale présente un certain nombre d'avertissements en matière d'instruction, notamment ce qui concerne le juge d'instruction. Des avertissements qu'ils doivent présenter à l'inculpé,
oui,
qui est en face de lui.
Tout à fait.
Il doit d'abord lui dire qu'il est libre de ne faire aucune déclaration sur le champ. Oui. Et là, nous sommes au niveau de la première comparution. Donc, ensuite, il doit lui préciser qu'il a à son choix de se défendre seul ou de se faire assister par un avocat ou un ou plusieurs avocats.
Oui.
Bon. Et qu'au cas où il a plusieurs avocats, il doit faire connaître le nom et l'adresse de celui-ci à qui toute convocation et notification doivent être adressées.
Tout à fait.
Et au cas où il ne peut pas choisir sur le champ un avocat, il peut en constituer un à tout moment jusqu'à la clôture de l'information. Et toujours dans le même article, maintenant son alinéa 3, mention est fait des éléments relatifs à son domicile. Toutefois, les dispositions de l'article 170, alinéa 2, ne sont pas applicables en cas de crime ou délit. Et c'est une informations importantes. Les dispositions précisées plus haut ne sont pas applicables en cas de crime ou de délit flagrant.
Mmh. Oui, tout à fait.
En cas de crime ou de délit flagrant, et notamment lorsqu'il y a risque de disparition des indices importants ou de décès d'un témoin.
Alors, ça veut dire que dans le cas de Jean-Claude Somon, Cabral Libye s'est dans une situation de flagrant délit. Et ça veut dire que ces dispositions, en réalité, ne s'appliquent pas à Jean-Claude Somba devant le juge d'instruction.
C'est lié à la comparution libre.
Oui.
Oui, mais c'est bien ce que dit la loi. C'est-à-dire, à partir du moment où il s'agit d'un flagrant délit, il y a un certain nombre de droits dont vous ne jouissez plus. Et il me semble d'ailleurs que tout cela est tout à fait logique, puisque il y a de fait une sorte d'inversion de présomption. En fait, ce qui est établi en la matière, c'est la présomption d'innocence, hein, c'est évoqué par la Constitution, dès le préambule de la Constitution. Mais lorsqu'on vous attrape quand même en train de voler une chose, M. Yvon Mabofé, il y a quand même un certain nombre, c'est suffisamment accablant pour que vous ne jouissiez plus d'un certain nombre. Parce que le risque pour vous, c'est de vous enfuir. Puisqu'il est établi qu'on vous a attrapé, ce téléphone que j'ai en main, on vous attrape en train de le voler. C'est vrai que jusqu'à ce que la procédure soit achevée et que votre inculpation soit prononcée, vous êtes réputé innocent. Oui, mais de vous à moi, quand même. On vous a vu avec nos deux yeux en train d'essayer de voler ce téléphone. Donc, il est tout à fait normal qu'on pense qu'en vous laissant rentrer à la maison, qu'on ne vous retrouve plus. Donc, et c'est normal que le législateur ait pris un certain nombre de dispositions pour sécuriser certes le présumé innocent, mais le très fortement présumé coupable.
Merci Cabral Libye. Je rappelle aux auditeurs que vous avez la possibilité d'interagir avec nos experts ici en studio. Les appeler directement au 653 81 19 18, 653 81 19 18 ou au 242 00 65 38, 242 00 65 38 ou encore nous envoyer des SMS au 655 44 60 92 655 44 60 92. Alors, je reviens à vous, Sa Majesté. Jean-Claude Somba est devant le juge d'instruction. Est-ce que Jean-Claude Somba a le droit de se faire assister
par... Il y a un appel, je crois.
Allô ? Oui, on nous signale qu'il y a un appel. Allô ? Voilà. Allô ?
Allô ?
Oui, bonjour. Oui, bonjour, allô, monsieur. Comment vous appelez ? Vous appelez d'où ?
Monsieur Niamsi de Mbankomo.
Monsieur Niamsi. Oui, monsieur Niamsi. Votre question ?
Oui, je voudrais savoir si pendant l'audition, l'individu arrêté peut demander un arrangement à l'amiable dans l'intention de d'éviter un long procès.
Alors, pendant j'imagine que c'est un cas que vous avez, un cas d'actualité. Pendant l'audition, à quelle phase ? À la phase préliminaire, à l'enquête devant des officiers de police judiciaire ou bien à l'instruction, devant un juge d'instruction ?
Je ne vous comprends pas très bien. Justement, je voudrais dire...
Ok, d'accord. On va laisser le choix à nos experts de pouvoir nous donner tous les détails selon qu'on est dans une phase ou dans une autre. Cabral Libye ?
Merci
beaucoup, M. Niamsi.
Oui, merci à M. Niamsi qui nous appelle d'un peu loin d'ailleurs, Bankomo. Alors, est-ce que on peut s'arranger à l'amiable en instruction ou en préliminaire? La réponse, c'est oui. La phase préliminaire se fait au niveau de l'officier de police judiciaire qui est saisi soit d'une plainte, soit d'un cas de flagrant délit. Maintenant, tout dépend de la nature de l'infraction. Si c'est une affaire qui peut être arrangée à l'amiable sans que... parce qu'il faut savoir que lorsque vous commettez une infraction, il y a deux victimes. Il y a l'État
et la partie civile.
Ce qu'on appelle le ministère public, qui est généralement représenté par le procureur de la République, oui. Le ministère public. Et il y a la partie civile, c'est-à-dire il y a un individu
qui se constitue partie civile et qui
semblable à vous, qui est victime. Donc, généralement, quand on vous punit, il y a deux choses qu'on répare. On répare, il y a d'abord les dommages et intérêts, c'est-à-dire qu'on doit réparer le tort que votre semblable, l'humain qui est votre semblable, a subi. Et il y a le tort que la société dans son ensemble a subi. Et c'est là que ça se joue. Souvent, vous pouvez réparer le tort de votre semblable, mais n'avoir pas pu réparer le tort de la société. Quand vous avez tué un homme, Bon, d'abord, le semblable, vous ne pouvez plus le remettre en vie. Donc, quand même, vous accepteriez de verser beaucoup de milliards aux membres de sa famille, ben, le juge, lui, n'estimerait pas forcément pour autant que vous avez réparé le tort qui est fait à la société. Et lui, il est fondé de penser qu'on doit quand même vous emprisonner. En fait, je veux dire. Mais, pour répondre à la question de M. Niamsi, la réponse, c'est oui. C'est que, si vous, pour le cas de M. Essoba, qui a volé, je crois, c'est même plus...
2 millions.
On le poursuivait, il a volé 2 millions. Oui. Bon, et puis on le poursuit, on l'attrape. On l'amène, disons, chez le commissaire de police ou le commandant de brigade de la gendarmerie du coin. Arrivé là-bas, Essoba dit vraiment, mes frères, je reconnais que j'ai volé. Je vais remettre les 2 millions et l'affaire s'arrange ici. Ben, le commandant demande à l'autre partie.
Monsieur Balaguel.
Ouais. Monsieur Balaguel, vous pensez comment? Monsieur Balaguel dit, ok, si lui me remet mes 2 millions, l'affaire est finie ici.
Je me désiste.
Et moi, je me désiste. Et effectivement, Essoba verse les 2 millions et l'affaire est terminée. Balaguel désiste. Et vous avez suivi le verbe employé par Raoul, désister. Parce qu'en fait, il y a une personne qui a introduit une plainte dans cette affaire. Et c'est à cette personne. Donc, si Monsieur Balaguel dit, même si tu me rembourses mes 2 millions, je ne me désiste pas. Ok. Le commandant est obligé de déférer le dossier au niveau du ministère public pour ce qu'on appelle maintenant cross-examination, tel que c'est introduit dans le code de procédure pénale. Et du coup, l'affaire ne s'arrête pas. Mais évidemment, devant, comme on dit, quand on vous envoie devant, quand vous êtes arrivé là-bas, vous pouvez à nouveau renouveler, vous pouvez renouveler votre offre de rembourser pour que l'affaire s'arrête. Et le juge, en ce moment-là, le juge d'instruction pourrait effectivement demander à l'autre partie d'accepter ou pas. Si elle refuse encore, eh bien, cette fois, l'affaire va être portée devant le siège, devant le tribunal.
Merci, Cabral.
Surtout que, oui. À la suite de Cabral, la partie peut bien accepter ce système, mais le ministère public continue à faire la poursuite. Mm-hmm. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que le désistement pourrait entraîner l'arrêt des poursuites.
Vrai, mais pas vrai, automatiquement.
Tant que le ministère public...
Sa Majesté, excusez-moi de vous couper, c'est un petit exemple. Hein. Alors, dans un pays, je vais taire le nom du pays ici. Alors, j'ai été confronté à plusieurs situations comme ça lors des activités de monitoring où, justement, on est arrivé en préliminaire, comme Cabral le soulignait. Et puis, il y a eu un arrangement à l'amiable. L'arrangement à l'amiable, la personne qui a créé le tort, comme vous dites, à la partie civile, au plaignant, il y a eu une sorte d'arrangement. Et après l'arrangement, le commissaire, le commandant de brigade était clair, il n'y avait plus de problème. Mais curieusement, le monsieur est encore reparti devant le juge. Et le juge, lorsqu'on était devant lui, lui dit, mais qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'on nous a dit qu'il y avait un arrangement. Il nous a dit, oui, effectivement, il y a eu un arrangement, mais... Le monsieur, le plaignant, a reporté l'affaire devant moi et moi, je suis obligé en tant que procureur de suivre le cours de l'affaire et d'ignorer ce qui s'était passé en arrangement parce qu'il est revenu. Il a dit que bon, de toutes les façons, il n'est pas satisfait, il faut qu'on aille jusqu'au bout.
Il n'est pas de bonne foi, hein? Il est de mauvaise foi. Mais il faut dire que le désistement est écrit, hein? C'est pas verbal, c'est un acte écrit. C'est vrai, quand vous désistez, vous n'avez pas effacé l'infraction. Bon, il a fait preuve de mauvaise foi. Il a fait preuve de mauvaise foi. Moi, je pense que dans ce genre de situation, le juge voit quand même exploiter le fait que quelque part, il s'est désisté. Même s'il revient aujourd'hui à la charge, il va apprécier la situation. Maintenant, on va voir aussi la partie qui a causé le préjudice. Elle a voulu un arrangement amiable. Et la partie a tout fait pour qu'il y ait arrangement. Là aussi, le juge va le noter. Voilà un certain nombre d'éléments qui peuvent jouer en sa faveur. Il a dit, il a quand même essayé, tenté un arrangement à l'amiable. D'ailleurs, l'autre partie a accepté l'arrangement à l'amiable. Mais comme l'infraction était déjà consommée...
Oui, alors...
on a une question. Excusez-nous. Bonjour, s'il vous plaît, est-ce que sans avocat, faute de moyens financiers, un accusé non assisté peut refuser de répondre aux questions lors de l'audition sans être inquiété? Mbala de Soa.
Alors, c'est le cas d'une personne accusée qui n'a pas d'avocat. Il ne peut pas s'en offrir un parce qu'il n'a pas les moyens. Il n'est pas assisté par l'État. Et peut-il le refuser? Non, il ne peut pas refuser. Ce refus sera retenu contre lui. Les questions d'indigence, vous savez, certes, la justice fait dans le social, mais sa première fonction, ce n'est pas de faire dans le social. Et puis, il y a une infraction qui a été commise. Il faut réparer l'infraction. Donc, tel que nous l'avons dit tout à l'heure, vous avez le droit à un avocat. Ça, si on vous refuse un avocat, c'est un tort et c'est à peine de nullité. Maintenant, si on vous donne, on vous rappelle que vous avez le droit à un avocat et que vous n'arrivez pas à vous en offrir un, tout ce qui vous reste, c'est de demander assistance. Et on a dit, il y a une commission qui travaille à cet effet. Et si jamais cette commission estimait que vous ne méritez pas d'être assisté, parce qu'il faut établir que vous êtes indigent, c'est pas que vous dites que vous êtes indigent, il faut établir que vous êtes indigent. Donc, si cette commission rejette votre dossier, mais vous ne pouvez pas refuser de répondre, parce qu'on estime que vous êtes en mesure de vous offrir un avocat, et que vous refusez de vous offrir un avocat, cela va être retenu contre vous.
Merci, Cabral.
Mais si tu permets, tout à l'heure, dans l'exemple que tu as pris avec Raoul, tu disais, voilà quelqu'un qui a désisté en enquête préliminaire, mais qui s'est lui-même transféré au parquet.
Oui.
D'abord, c'est son droit. Parce qu'il faut savoir qu'en la matière, on ne passe pas toujours par la police. Il y a ce qu'on appelle la citation directe. C'est-à-dire qu'on saisit directement le parquet. Donc, je peux très bien, en préliminaire, prendre même, écrire même que je désiste en préliminaire. Et puis, je me rends compte que tant que l'infraction n'est pas prescrite, c'est-à-dire que il n'y a pas encore extinction de la possibilité de poursuivre, mais je peux très bien saisir à nouveau le juge. C'est mon droit le plus absolu. Saisir directement, donc faire une citation directe, estimant que mon désistement préalable ne m'a pas arrangé. C'est mon droit le plus absolu. Maintenant, effectivement, comme Raoul le disait, une fois que nous sommes arrivés au parquet, on tiendra quand même compte de ce désistement préalable, mais là, ça rentre maintenant dans la conduite de l'affaire. C'est-à-dire, le juge pourra par la suite quand même tenir compte de ce que, de la bonne foi, cette fois, de la bonne foi de la personne qui est accusée. Et ça, c'est un élément très important, parce que quand vous désistez, ça veut dire qu'il y a aveu. Et l'aveu, nous l'avons appris en droit, est une circonstance atténuante. Donc, si quelqu'un en préliminaire a quand même avoué, et parce qu'il a pris l'engagement de réparer le tort, et la personne qui avait subi ce tort a désisté parce qu'elle a estimé qu'en ce moment-là, son tort était réparé, qui par la suite s'estime ne pas avoir été vraiment satisfait par cet arrangement amiable, oui, le juge est obligé d'en tenir compte, mais est également obligé de tenir compte de la bonne foi de la personne dont l'aveu a entraîné le désistement. Mais là encore, ça c'est un cas de figure particulier. Tu as bien fait de le relever, mais la pratique, ce qui se fait habituellement, c'est que l'affaire commence en préliminaire. Lorsqu'il y a désistement en préliminaire, il n'y a plus transfèrement du dossier au parquet. Parce que dès que l'officier de police judiciaire qui diligente l'affaire au niveau de l'enquête préliminaire a obtenu un arrangement, ben quel est l'intérêt encore d'envoyer le dossier au procureur? Généralement, ça s'arrête là. Il n'envoie généralement le dossier au parquet que lorsqu'il n'y a pas eu possibilité de s'entendre au niveau de l'enquête.
Alors, on signale la réalisation qu'il nous reste 4 minutes. Et avant de répondre, sur le même point, alors, est-ce que la pratique du désistement, parce que c'était un peu la crainte justement dans ce pays, que je continue à tel ou non, est-ce que la pratique du désistement n'est pas une ouverture à l'impunité? C'est-à-dire que si nous inscrivons de désistement en désistement, est-ce que ça ne va pas inciter les auteurs de violations quelconques de droits de l'homme à dire « je commets » et après, en préliminaire, « je reconnais » et on arrête, l'affaire est close.
Non mais, il faut voir décisement en quelle matière. Si tu donnes un coup de poing à quelqu'un, dites-moi comment vous allez... Bon, la partie va dire peut-être je le laisse. Comme on dit souvent au quartier qu'il parle avec sa malchance, je me désiste. Mais là, il y a un problème. Il a donné un coup de poing, comme Cabral disait tout à l'heure. La partie s'est désistée, mais le ministère public peut poursuivre la personne, l'auteur de la présumée infraction. Le ministère public a le droit de poursuivre l'auteur de la présumée infraction. Bon, je suis d'accord avec toi. Pour une meilleure protection des droits de l'homme, pour une meilleure protection des droits de l'homme, on ne peut quand même pas accepter que tout le temps, dès que les hommes sont victimes d'une agression quelque part, qu'on ouvre cette boîte de Pandore, qu'on dise bon, ok, il se désiste, c'est
arrangement
à
l'amiable.
C'est vrai que le désiste. Mais quand nous essayons de voir aussi, quand même, dans la pratique, il n'y a pas trop de désistement en matière de
criminel.
D'infraction criminelle. C'est beaucoup plus sur le plan.
Délictuel.
C'est beaucoup plus sur le plan délictuel, problème d'argent. Problème de ceci, mais généralement en matière de en matière criminelle, il n'y a pas trop de résistement en général.
Merci. Oui, parce que généralement l'infraction est si offensante que personne qui subit cette offense veut réparation par la justice. Mais globalement, vous connaissez tous le dicton très popularisé, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. C'est pour ça que, après tout, nous restons des humains. Si je vous ai offensé et que je reconnais l'offense et que je m'engage à réparer l'offense, surtout si l'offense est réparable, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi des conditions. Si je vous crève un œil, évidemment, je ne pourrai jamais vous redonner un autre œil. Maintenant, je peux me proposer de réparer la blessure et puis peut-être de vous faire un versement spécial de beaucoup d'argent. Bon, si ça vous amadoue, vous pouvez toujours désister. Mais comme le dit Raoul, le procureur, lui, il peut estimer qu'il faut qu'on vous enlève même l'envie, un jour encore, de crever l'œil à quelqu'un. Il dit, bon, nonobstant tous les engagements que vous avez pris, monsieur, vous serez jugé.
Il en a tout à fait le mot offense.
Chers experts, malheureusement, nous sommes arrivés au terme du temps qui nous était imparti dans le cadre de cette émission. Je rappelle à nos nombreux auditeurs qu'il y a beaucoup de questions. Nous ne pouvons malheureusement pas donner suite à toutes ces préoccupations. Mais sachez que la semaine prochaine encore, nous sommes là mardi de 9h à 9h30. Et les rediffusions, c'est mercredi, le même mardi à 20h et mercredi à 14h. Dans le cadre de cette nouvelle édition, la rediffusion, c'est ce jeudi à 20h et vendredi à 14h. D'ici là, portez-vous bien et bien de choses à vous. Merci. Bonne fin de semaine.
Oh, c'est ça.